Moi, j'ai une question d'information. Pourquoi ce dispositif est réservé à des personnes étrangères ou d'origine étrangère? Et qu'est-ce que vous entendez par origine étrangère?
Merci, Véronique. Parce que le constat de départ, la commande en fait, tout est parti de la commande de la PMI. Donc c'est tout le débat qui continue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 2 ans, en fait, ça met mal à l'aise aussi certains professionnels du Conseil général qui se demandent pourquoi d'origine étrangère. Alors dans le d'origine étrangère, c'est en fait les personnes non scolarisées antérieurement en France.
Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être étranger.
Non.
Oui, mais il y a des lignes budgétaires. Il y a des lignes budgétaires qui ne peuvent pas être activées. Par exemple, pour les publics dits en situation d'illettrisme, c'est-à-dire scolarisés en France. Donc, c'est là l'effet pervers des politiques publiques. Et donc, il faut aller vers la recherche de cofinancement qui permettrait d'élargir et de sortir de ce genre de catégorie.
Mais en revanche, c'est forcément des personnes peu scolarisées ou non scolarisées, ou bien parmi les personnes étrangères, strictement parlant. Il peut donc y avoir des gens, y compris à ce qu'on appelle un haut niveau de qualification intérieure.
Oui, et on en a eu.
Et on en a eu des non scolarisés.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, là on travaille avec un organisme de formation qui a retraduit notre plaquette de communication et qui a traduit cette phrase-là en fait par des personnes peu ou pas qualifiées ou peu ou pas scolarisées antérieurement. Mais nous, on ne l'a pas écrit comme ça justement pour laisser ouvert. Et c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi ne pas faire avec des personnes, j'allais dire des femmes, parce que c'est ouvert aussi aux hommes a priori, avec des personnes qui seraient nées en France, scolarisées en France et qui rencontreraient aussi des freins langagiers. Mais je crois que là, on est en train de bouger une autre perception de la part des professionnels de la PMI, entre autres.
Je pense que quand une formation courte de 150 heures se pose la question de l'oral. Et que si les personnes se trouvent en communication orale et qu'ils ont de vrais besoins à l'oral, parce que c'est ça la problématique, il faut qu'il y ait des cohérences pour les groupes, hein, parce que c'est court, et il faut pouvoir donner la priorité à une véritable pédagogie de l'oral. C'est des questions techniques. Après, si on s'adresse à des proches francophones ou à des francophones, là, les catégories nationales ou autres, on va voir.
Si je peux juste ajouter, comme je ne l'avais pas mis j'ai pas le temps de le dire. C'est vrai que le travail auprès des professionnels de la PMI, c'était de savoir ce qu'elles entendaient par les freins langagiers, qui est-ce qu'elles visaient. Et c'est vrai qu'on est dans une représentation très marquée de, en gros, celui qui maîtrise le français, c'est le locuteur natif, et c'est ce que je démontrais. Le locuteur natif, c'est forcément celui qui est français, de France, pas francophone, et donc avec une représentation qui collera jamais avec les personnes dites d'origine étrangère. Et ça a perturbé aussi, puisque dans notre deuxième session qui a eu lieu, on a reçu en fait un nombre important de femmes qu'on pourrait qualifier de francophones, finalement. Ou à l'oral, on n'avait pas de... Enfin, on pouvait poser la question de qu'est-ce qu'était le frein langagier, finalement, pour ces personnes qui avaient été scolarisées dans un système français, mais ailleurs, en dehors des frontières de la France métropolitaine. Et ça, c'est des questions qui restent encore à travailler, puisque là, on est sur des représentations très fortes du fameux locuteur natif qui maîtriserait. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser? Quelle langue? À partir de quand? À partir d'où? Voilà un petit peu les questions autour de cette notion de maîtrise qui est très bien, qui circule très bien par les différents professionnels.
Alors j'allais écrire dans l'ordinaire,
Non, moi c'est très court, je voulais juste déjà me présenter ce que j'ai pas fait tout à l'heure dans l'idée au milieu d'encadrant de la thèse d'Aurélie. Je propose que chacun se présente au fur et à mesure, puisque. Voilà. Sinon, oui, moi ce qui me frappe, c'est que depuis tout à l'heure, on voit bien comment la présence de quelqu'un qui a la double casquette chercheur-praticien fait évoluer les choses sur le terrain. Et je ne vois pas du tout comment ça se passe en sens inverse. On n'a pas d'argument pour le moment. Or, le succès d'une telle cifre, c'est aussi d'instabiliser les chercheurs. Et donc, Alors, ça veut peut-être dire que les chercheurs ont tellement intégré les contraintes de terrain qu'ils ne voient même plus en quoi ça va bouleverser. Ils sont plus capables de voir en quoi ça a bouleversé leur repère. Mais je crois que pour que la thèse d'Aurélie soit une bonne thèse après, puisque bon, Mme Préhoff a défendu le côté excessif, mais voilà, il faut aussi insister quand même sur cette dimension, que ce qui s'est passé sur le terrain vient faire bouger les choses dans le domaine de la recherche, et pour le moment, on n'a pas un seul argument. Donc je voulais juste vous alerter là-dessus. Pour
Ce que j'entends par ça, c'est que quand on réfléchit à la didactique, de la spécificité par exemple de la didactique du français pour des adultes en situation de migration, on essaye d'objectiver les contours de cette didactique. Par exemple, pour moi, une spécificité de cette didactique, c'est qu'il faut didactiser l'immersion. Et, par exemple, j'ai essayé de voir comment penser pour reconnaître les apprentissages informels, expérientiels, et reconnaître dans l'immersion et faire venir dans les situations d'apprentissage, tenir compte des situations d'immersion. J'ai commencé le fil comme ça, et ensuite je me suis dit, voilà, quand on arrive aux certifications qui sont proposées aujourd'hui, on voit bien le décalage, les certifications en langue ne tiennent pas compte du tout de l'agir social, des traces de l'agir social pour que la personne puisse venir expliciter ce qu'elle fait, comment elle fait, ce qu'elle a fait, parce que les tests de cochage ne témoignent pas de ça. Donc, quand je dis objectiver la didactique, j'essaye de penser ça. Deuxième question sur le sujet apprenant. Quand j'ai écrit, je suis co-auteur du référentiel du niveau 1.1 en lecture-écriture. Quand j'étais dans ma réflexion déconstruire les façons de penser, de nommer le sujet apprenant, pour moi les personnes ne sont pas analphabètes, ce sont des adultes en situation d'apprentissage de la lecture et l'écriture à l'âge adulte. Et j'ai essayé de penser moi-même les objectifs de l'objet de la lecture et l'écriture pour les trois paliers du premier apprentissage à l'écrit de cette façon-là. Donc j'ai essayé de déconstruire en moi. Et déjà, la notion d'alphabétisation, pour moi, elle est non pertinente pour les adultes parce que c'est l'école qui alphabétise à l'âge de 6 ans. Et quand on n'a pas été alphabétisé, on n'a pas été alphabétisé. Donc, pour moi, il faut faire le deuil de la scolarisation, déjà, pour entrer dans le processus d'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture à l'âge adulte. Bon, j'ai fait moi-même ce cheminement-là et j'ai essayé d'objectiver. Donc, du coup, je trouve un sujet apprenant adulte qui regardait en tant qu'habitant, mère de famille, parent d'élèves, consommateur, cette culture de l'ensemble, de l'ancrage quelque part. Donc je ne vois plus des personnes analphabètes, peu qualifiées, migrants, etc. Et dans ce portage-là, je trouve qu'il y a une façon d'éloigner les choses non dites des politiques publiques qui gèrent les flux migratoires aujourd'hui, et qui font la corrélation entre l'apprentissage de la langue, la certification en langue, et l'obtention de la carte de séjour de 1 an ou 2 ans. Donc je m'éloigne de ça, et je reste dans... Et par exemple, je n'ai pas signé le premier texte de FLI, parce que j'aurais voulu aller beaucoup plus loin dans les arguments de ce genre, pour ne pas avoir des arguments qui pouvaient ensuite rendre victime des choses très ambiguës là-dessus. Tout mon souhait, c'est d'essayer d'objectiver, de construire des choses pour montrer eh bien voilà, les spécificités de l'objet d'apprentissage, des visées, du contexte, des situations, de la variation des sujets et de la langue. Quand je parle les sciences de l'éducation sont politiques dans le portage, justement, du rapport à l'autre et du rapport d'appropriation et pas de transmission ou de modèle transmissif, hiérarchisé, et où l'autre n'a pas beaucoup de place. Politique dans ce sens.
Autour de ce que tu viens de dire, Marina, justement, quand tu dis finalement, enfin, moi ce que je dis, c'est que tu choisis d'une certaine manière de voir les personnes qu'on catégorise usuellement comme analphabètes, qualifiées, etc. Tu choisis
oui.
de les voir sous un autre angle,
oui.
comme les citoyens des mères de famille, enfin, les différents exemples que tu as donnés. Pour moi, c'est éminemment politique.
Sans doute.
Donc, c'est de ce point de vue-là. Je ne vois pas comment tu peux dépolitiser la didactique.
Oui, mais c'est le choix formatif et c'est le choix éducationnel qui, lui, en tant que système éducatif, prend un ancrage politique sur le regard sur le citoyen, sur l'apprenant ou sur celui qui se forme. Et je suis sur le champ politique des sciences de l'éducation, mais pas sur le champ politique de la gestion des flux migratoires. Dans ma pensée, hein, c'est ma façon à moi de me distancier et de pouvoir objectiver. C'est pour moi, peut-être, ce sont de nouvelles façons pour moi de militer à partir d'une réflexivité qui est formative. Par exemple, quand De Peretti dit « nos élèves n'ont pas besoin qu'on les connaisse, mais qu'on les reconnaisse », moi, je m'inscris dans le sillage de Peretti, donc je me dis, mais moi, je n'ai pas besoin de connaître ou de savoir comment ils se marient, comment ils font ci, comment ils font ça. Personne et les sujets apprenants ont des besoins. On les reconnaisse en tant que sujet apprenant, qui a un potentiel intellectuel humain, quel que soit le degré de scolarité. J'ai écrit ça dans un article et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions. Comment tu peux dire ça? J'ai utilisé la didactique. Mais bon, c'est vrai que ce que j'entends moi par politique, c'est peut-être très marqué par rapport à la gestion des flux migratoires et comment c'est en train d'évoluer non seulement en France, mais en Europe.
Vous avez beaucoup insisté sur sujet, subjectivité, etc. Est-ce que, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque part, quand on parle de langue et de culture, on n'a jamais une langue et une culture tout seul. C'est toujours en deux. Et est-ce que parler de sujet n'est pas dissoudre ça d'une certaine façon et de manière un peu... Parce que c'est assez pervers, tous ces concepts. Est-ce que prendre cette position n'est pas aussi, quelque part, faire le jeu d'une République qui ne veut reconnaître qu'un groupe qui est la République, article 2 et 1 est indivisible, et il ne peut pas y avoir le sous-groupe de la République. Est-ce que, quelque part, en insistant sur sujet, on ne joue pas ce jeu-là?
Peut-être, ça dépend de ce qu'on met dessous et de ce qu'on en fait. Pour moi, c'est une entrée. Je ne veux pas dire que dans la façon ou dans la didactique ou la prise en compte des dires et des variantes de ces sujets qui sont pluriels en eux-mêmes, parce que nous sommes pluriels, nous n'en tenons pas compte dans le dire, dans l'action, dans la façon d'interagir, etc. Pour moi, c'est une entrée. Ça ne veut pas dire que le sujet est homogène ou nous sommes pluriels. Et je laisse, pour moi, en tout cas dans cette approche-là, la notion de que nous sommes uniques mais multiples. Et qu'on a le droit de donner de soi à voir ce qu'on a envie de donner à voir. Et donc, par exemple, la question de l'autonomie que tu posais, c'est une vraie question. Moi, je ne me montre pas pour que les gens soient autonomes. Il faut d'abord savoir s'ils le veulent. Et c'est à eux d'en décider. Mais en tout cas, les formations qui visent l'autonomie par rapport à la perte d'autonomie quand on n'a pas la communication possible, parce que la perte d'autonomie quand on est migrant, elle se situe quand on n'a pas les codes effectivement sociaux pour aller voir l'assistante sociale et les codes langagiers et les formes langagières pour interagir avec son travailleur social. Combien de femmes se font accompagner de leurs enfants pour aller voir le travailleur social? Donc la perte d'autonomie, ce sont des personnes qui sont parfaitement autonomes par ailleurs, mais elle se situe dans des pans des interactions, parce que c'est une langue que l'on connaît peu, c'est des codes sociaux et des espaces sociaux que l'on connaît peu, etc. Mais après, les sujets font effectivement ce qu'ils ont envie de faire de leur autonomie. On n'est pas dans des logiques de prescription, parce que autrement, c'est un peu paradoxal de souhaiter l'autonomie à la place de l'autre. Mais par contre, on donne des éléments à la fois de connaissance et de rapprochement avec ces espaces sociaux, pour que chacun puisse ensuite faire des choix, critériés, si possible.
Cécile, et puis après...
Avant la question, c'est plutôt pour continuer le débat sur la question de l'autonomie. Moi, je trouve extrêmement autonome que quelqu'un qui arrive à aller aux limites de sa propre habileté sache trouver la personne, que ce soit son enfant ou pas, qui lui permet d'arriver à cette fin quand même. Parce que l'autonomie, elle ne se décrète pas, c'est pas une indépendance ultime, on fait toujours tout seul, en dehors du monde, en dehors des choses. L'autonomie, elle est contrainte par des limites, par des frontières, par plein de choses. Et la question qui est posée là, et que vous posez, moi, je trouve tout à fait justement, et l'une et l'autre dans la manière de présenter ce projet, c'est que c'est une autonomie qui prend en compte les limites, les contraintes, le cadre, et qui n'a pas, qui ne décrète pas que ce qui est bon pour l'autre, comment il faut qu'il fasse pour être autonome. Et voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de souligner ça et peut-être même d'aller plus loin. Tous les moyens que la personne met en œuvre pour arriver à cette fin, pour moi, ce sont des processus d'autonomisation. Même si c'est se faire aider, même si c'est se faire remplacer. Après, ça dépend d'un point de vue personnel, philosophique, comment cette personne-là ou les autres appréhendent cette aide ou ce soutien. Mais pour moi, ça ne va pas à l'encontre, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire aussi que le moment où on accompagne vers l'autonomie, ce n'est pas l'autonomie. Or, vous dites, les gens sont finalement autonomes dans la vie de tous les jours, ils ne demandent pas à ce qu'on les assiste le matin ou le soir. Je trouve que cette réflexion, elle mériterait peut-être d'être poussée encore plus loin sur la reconnaissance de ses propres limites et de la manière dont on les gère.
Alors j'ai pris volontiers l'exemple des personnes qui vont voir les travailleurs sociaux et c'est les enfants qui traduisent, parce que c'est un espace adulte-adulte. Et je le prends exprès comme exemple. Parce que ce qui est très paradoxal, c'est que ce sont les mêmes personnes et les mêmes femmes qui viennent demander dans les associations à apprendre le français, et au lieu de leur proposer des interactions orales adultes pour la plupart, pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, si elles souhaitent continuer d'aller avec son enfant, mais ça m'étonnerait, qu'elles puissent le faire toutes seules. Et donc les gens s'inscrivent dans une relation de dépendance au point que dans certains espaces pédagogiques, on leur propose les syllabes, de l'alphabétisation, etc. Et à la fin de 2 heures d'atelier, la dame va sortir un papier de son sac et va demander si elle ne peut pas téléphoner à la formatrice ou à l'association, à la médiatrice socioculturelle dont on parlait tout à l'heure, qui va parler la langue pour appeler l'assistant social et obtenir un rendez-vous. Donc, une fois qu'on voit ce genre de paradoxe prolonger pendant des années et dire, après 8 ans de cours d'alphabétisation, que de toute façon, et les femmes croient qu'elles n'ont pas de mémoire, et c'est pour ça qu'elles ne mémorisent pas, et on continue de proposer des choses qui n'ont rien à voir avec les interactions adultes, sur le plan pédagogique, personnellement, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose.
Quand je disais ça sur cet exemple précis, c'est vrai que sur la place des enfants dans la relation, on en a dit plusieurs fois, mais je comprends quand même, c'est vrai que la frontière est limite entre la solidarité familiale et les inversions qui sont dommageables. Et cette frontière-là, elle est effectivement assez dangereuse. Mais je trouve intéressant de le lier, moi je ne l'avais pas lié comme ça, avec la puérilisation ou l'infantilisation de la didactique des adultes.
Exactement.
Je n'avais pas fait ce lien-là, mais on l'observe partout. Hein. C'est-à-dire qu'on a à lire à des adultes avec des choses de CP, mais on cache CP quand on cache.
Les cahiers du soir du CE1, c'est encore. Et dans mon parcours de terrain, de professionnel de terrain, j'ai amené des formations de formateurs, par exemple, dans une ville, je ne me souviens plus, il y avait sur 15 personnes en formation, 12 femmes voilées, très jeunes, très très voilées, et ce sont des filles de ces femmes-là. Et donc, à un moment donné, on s'est mis à discuter hein, des techniques, des démarches en lecture-écriture. Et quand ces femmes-là commencent à vous raconter leur regard hein, sur ce qu'elles ont vécu à l'époque où elles accompagnaient non seulement voir les travailleurs sociaux, mais également les instituteurs, et elles ont perçu aussi ce que les associations proposaient à ces femmes-là, à ces mères-là. Il y a peut-être des questions à interroger aussi sur l'impact des replis qui se passent aujourd'hui, auxquels peut-être nous continuons d'y contribuer sans trop y réfléchir. Donc quelque part, ce rôle de médiation et de mise en lien dans ces interfaces-là aujourd'hui, plus que jamais, elles se posent à nous sur le plan de la rencontre.
Hein ? Moi, je vais juste ajouter une phrase. Parce qu'en fait, là, on est juste dans la relation de la femme, des femmes migrantes face au travailleur social, par exemple. Mais moi, j'aimerais aussi poser la question de comment le travailleur social peut s'adapter à ce public et comment il peut être sensibilisé à ce rapport et à l'accès à la langue. Parce que là, en fait, on part du principe qu'elle ne parle pas. Or, on a beaucoup de personnes qui ont des compétences, qui ont des ressources, et qui, parce qu'on leur renvoie, et c'est peut-être ce jeu de pouvoir qui transparaît, se sentent en insécurité et illégitimes comme locuteurs. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une relation qui n'est pas seulement, je ne sais pas comment dire, dans un sens, unilatérale, voilà, mais qu'on tourne sur plusieurs relations.
Autour
d'un café.
Merci beaucoup.
Merci.